Georges Oriental. J'ai réfuit totalement cette histoire.
Moi, c'est Céline de Dukumbati, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de l'imprécisant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Les efforts de la RTC dans la gouvernance et la lutte contre la corruption au centre d'un séminaire organisé à Kinshasa par l'Observatoire du Code d'éthique et professionnelle. Le gouvernement s'est engagé il y a 12 ans dans un vaste programme de réformes en vue de éradiquer la corruption. Certains participants estiment que malgré ces réformes, la RDC a encore beaucoup à faire pour atteindre la cote de 5 sur 10 exigée par l'ONG Transparency International. Comment lutter efficacement contre la corruption et améliorer la gouvernance en RDC? C'est la question au centre de notre échange dans cette émission 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission réalisée par Julie César. Paul Bayanyama assure la mise en onde et Thierry Lamé, je vous la présente sous la supervision de Nico Ngaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer 081-890-6315 ou par internet. pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Pendant 3 jours, plusieurs personnes discutent et évaluent le programme du gouvernement et les efforts fournis dans la lutte contre la corruption et ainsi que l'amélioration de la gouvernance. Nous en parlons ensemble avec vous. Qu'est-ce qui doit être fait d'une manière plus efficace pour rencontrer la volonté de tous ceux qui voudraient voir la corruption éradiquée en RDC? Vous pouvez intervenir en direct en nous appelant au 081-890-6315. Mais d'un moment à l'autre, nous aurons notre invité, les professeurs sont Augustin Mouindambali, qui est le directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Mais en attendant, il y a beaucoup de messages déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, beaucoup de contributions, des compatriotes qui voudraient bien proposer des pistes, des solutions, comme Franck Abanakio, qui nous a écrit d'ici en province orientale, qui dit ceci: la vraie solution pour pallier au problème de la corruption à RDC est que le gouvernement prenne conscience et la bonne volonté d'améliorer les conditions salariales de la population. Il est vrai que le salaire de la majorité des fonctionnaires de l'État est tellement insignifiant qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux multiples difficultés de leur vie. Mais nous avons aussi Jean-Claude Mofondich de Kinshasa qui dit ceci: le problème ne trouvera la solution qu'auprès des décideurs, car ils font semblant, ils nous racontent ce qu'ils veulent, mais la corruption est plus dans le milieu des décideurs. Il y a aussi Fidel Senda de Lubumbashi: aujourd'hui notre pays est classé en tête parmi les pays où la corruption sévit, simplement parce que beaucoup de gens utilisent la corruption pour acquérir des moyens, même ceux qui sont élevés en dignité. Ils utilisent la corruption pour rendre service. Pour lutter contre cela, il faut que tous les membres du gouvernement prennent conscience et se contentent de leur rémunération. La même chose avec ceux qui ont de responsabilités, chacun se contente de son salaire. Pascal Baroumé Darou, en province orientale, il dit ceci: pour lutter contre la corruption, c'est très facile. Ce qu'il faut d'abord, c'est la prise des consciences des uns et des autres. Je me demande s'il y a moyen d'abord de pouvoir déterminer dans quel secteur il y a plus de corruption, et comme ça, on pourra dégager les pistes des solutions pour lutter contre cela. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct: 081-890-6315. Et vous avez besoin aussi de contribuer, de poser votre point de vue sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Serge Emi Benguet-Berton dit ceci: il faut une justice pour appliquer sévèrement la loi. Sans cela, tout ce que nous allons mettre dans la caisse de l'État va continuer à disparaître. Aussi longtemps que l'impunité continuera, il n'y aura pas moyen d'améliorer la gouvernance ni de lutter efficacement contre la corruption. Il y a aussi le message de Masonga Ademambika, rubrique qui dit ceci, il est difficile de lutter contre la corruption aussi longtemps que les salaires des fonctionnaires ne répondent pas réellement à leurs besoins. Voilà autant de réactions pour ceux-là qui ont contribué à travers la page Facebook des paroles aux auditeurs. Mais vous pouvez aussi, comme je venais de le dire, nous joindre au 081-890-7315 en direct. Mais nous avons plusieurs pistes de solutions nous proposées ici par notre compatriote Franck qui nous a écrit des biens. Il dit ceci, au premier niveau de la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance, il faudrait d'abord nous-mêmes, les Congolais, c'est notre première responsabilité. Chacun doit refaire son mental, son moral, chacun doit se remettre en question, chacun doit tenir compte de la corruption en fonction de ses propres sentiments. Il faudrait-il aussi décider pour faire... Et parce qu'il y a des gens qui décident de se faire corrompre ou de corrompre, tout cela d'abord doit être une remise en question individuelle. Il y a aussi Franck qui dit ceci, l'équilibre du partage des revenus nationaux au sein de toutes les structures et organisations sociétales, on doit s'attaquer aux causes et pas seulement nous arrêter à décrire les faits. Il faut une justice distributive, ce qui va nous permettre à ce que nous puissions combattre d'une manière plus efficace la corruption. Nous allons, comme je le disais tout à l'heure, avoir notre invité d'un moment à l'autre. Mais je rappelle encore les contacts pour intervenir en direct. 081-890-7315.
L'émission Radio Capi, le grand concert de la paix placé sous le signe de Peace One Day en direct de l'aéroport international de Goma à l'occasion de la journée internationale de la paix. À l'affiche, Econ, Lexus Segal, Betty Darba, Nouvelle Boukouli et le groupe Sangoa. Peace One Day, c'est ce dimanche 21 septembre de 12h à 15h30, heure de Kinshasa sur Radio Capi. Pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Et parole aux auditeurs, demain, vendredi, aura un espace consacré, bien sûr, à la célébration de la journée internationale de la paix. On prend rendez-vous demain, vendredi, mais aujourd'hui, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, en ligne, le professeur Saint-Augustin Mouindambali, le directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs des Radio Capi.
Je sais qu'aujourd'hui, c'est le troisième jour, n'est-ce pas, de cet atelier consacré à l'évaluation des efforts de la RDC dans la gouvernance et la lutte contre la corruption. Peut-être on ne pourra pas plus loin d'abord pour parler des résolutions, des recommandations, mais regardons d'abord, faisons un pas en arrière, 12 ans, que les gouvernements avaient initié le programme d'éradication de la corruption et ensemble avec les participants à cet atelier. En bref, quel état des lieux vous avez fait de cette lutte contre la corruption en RDC et l'amélioration de la gouvernance?
Merci beaucoup pour la pertinence de la question. Nous sommes partis d'un constat tiré dans la lettre du président de la République adressée aux quatre vice-présidents des institutions de transition. C'était le 26 mai 2004. Cette lettre ouvre son contenu par un paragraphe particulier qui dit ceci, la présentation des valeurs éthiques et le triomphe des valeurs démocratiques devraient constituer une priorité de son quinquennat et de tous les temps qu'il devait présider aux destinées de notre nation. Mais malheureusement, la deuxième phrase qui suit, malheureusement, ces valeurs républicaines et éthiques sont dominées, presque effacées, par les antivaleurs qui ont fait de la société congolaise d'aujourd'hui une risée du monde. En le disant, le président prend à témoin. Et les quatre vice-présidents de l'époque, et les membres du gouvernement, et la population, et les agents publics et de l'État, qui ont été interpellés sur la nécessité d'asseoir les règles de bonne gouvernance dans leur gestion quotidienne de la chose publique, la res publica, et dans les comportements, les attitudes, les agissements de tous les dirigeants, de tous les sujets congolais pour faire triompher les valeurs éthiques et la bonne gouvernance afin de bouter dehors les cornes du diable qui portent la corruption. Ça, c'est l'introduction de la lettre du chef de l'État. Nous considérons cette lettre comme étant la matrice fondatrice de la vision du chef de l'État. Cette matrice fondatrice résume la vision du chef de l'État en ceci. Il cherche le bien-être de l'homme congolais. Il cherche le bonheur d'un complet développement de la nation, de l'entreprise. Il traverse le développement de la nation. Pour parvenir à réaliser sa vision, le président de la République a proposé des voies, a proposé une méthodologie, a proposé des moyens afin d'y parvenir. Et parmi ces moyens, il y a d'abord le code de conduite de l'agent public et de l'État qu'il a promulgué en 2002, devrait servir de livre de chevet à tout agent public de l'État qui est appelé à gérer la chose publique. Ce livre de chevet devrait également interpeller la population, c'est-à-dire les usagers des services de l'État, pour qu'ils ne puissent pas soumettre les agents publics de l'État sous un prisme de domination en prétextant que seul l'argent pouvait leur faciliter la tâche, pouvait même pousser l'agent public de l'État à se détourner des règles de l'administration, des règles de gestion de la chose publique. Voilà, parmi les moyens que le président a proposés, le concept de bonne gouvernance va atterrir. Et le code de conduite lui-même, dans l'exposé de motifs, se termine par cet alinéa. Vu la nécessité de doter la RDC, la République démocratique du Congo, d'un code de conduite susceptible de moraliser la gestion de la chose publique, le président de la République décrète. Article 1er ou 28 est institué un observatoire du code d'éthique professionnelle dont la mission est de moraliser la gestion de la chose publique, de veiller à l'application des bonnes conduites au sein de notre administration et de lutter contre la corruption.
Oui, professeur Mwendambali, avoir le code, le texte, la volonté exprimée dans un document, c'est une chose. Mais et aller dans les faits pour matérialiser cela aussi, c'est aussi autre chose. Mais quand vous regardez aujourd'hui, 12 ans après, les codes existent, l'observatoire a été créé, quels ont été les acquis positifs aujourd'hui dans l'amélioration de la gouvernance et lutte contre la corruption? Les éléments positifs que la population aujourd'hui peut bénéficier pour dire, voilà, nous témoignons que les choses se sont améliorées avec ces codes, avec l'observatoire, voilà les résultats positifs que nous avons eu aujourd'hui.
Parmi les réalisations à inscrire sur le compte du gouvernement, nous pouvons d'abord citer la création de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Nous avons vulgarisé plus de 700 000 agents publics de l'État. Nous avons fait signer ce qu'on appelle l'acte d'engagement éthique à plus de 600 000 agents publics de l'État, y compris les membres du gouvernement l'année dernière à Zongo, qui ont suivi une certaine formation d'immersion sous l'impulsion du Premier ministre Matata Ponyo. Nous avons signé et ratifié la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Ça, cet instrument, on ne pouvait pas s'engager dans la lutte contre la corruption. Nous avons ratifié la convention, les protocoles d'accord de la SADC contre la corruption. Nous avons signé la convention des Nations Unies sur la prévention et la lutte contre la corruption. Le président de la République a déclenché l'opération Tolérance Zéro qui a été inaugurée avec la révocation de plus de 500 agents fonctionnaires véreux et 300 magistrats qui se sont mal comportés. Nous avons été dans les prisons où nous avons également répertorié un certain nombre de prévenus ou bien des condamnés pour faits de corruption. Nous-mêmes, nous avons diffusé ces images à la télévision.
Voilà.
Il y a des ministres qui ont été révoqués du gouvernement pour des faits graves, notamment ceux de la corruption. Et la série continue. Le Forum national sur la lutte contre la corruption a été convoqué par le chef de l'État, personnellement engagé dans les processus.
Oui, oui. Voilà. Oui,
il y a des voix maintenant anticorruption qui commencent déjà à passer au niveau du Parlement. Notamment, la loi sur la déclaration des enfants qui n'a pas été reçue immédiatement pour harmonisation de recevoir quelques amendements. Donc, il y a autant d'actions tangibles qui montrent que le chef de l'État, que cette volonté de chef de l'État est mise en œuvre. Mais il y a un mais.
Oui.
S'il vous plaît, professeur Mouzambali. L'ensemble de la classe dirigeante.
Oui, professeur Mouzambali.
Si on peut s'entendre. À travers ces combats, une privation, le fait d'être coupé des bibliothèques, le fait que leurs projets soient contrariés, ils ne veulent pas mettre en application cette volonté, cette
décision voilà.
Professeur Mouenambal,
s'il vous plaît. Voilà, professeur Mouenambal, si on peut s'entendre, hein, c'est une interactivité tout en intervenant, vous écoutez dans votre téléphone l'interactivité, vous avez évoqué plusieurs fois la volonté du chef de l'État. Est-ce que le problème de la lutte contre la corruption, le problème de la meilleure de la gouvernance, en vous entendre parler plusieurs fois de ce qui est la volonté du chef de l'État, on comprend alors que ça risque d'être un concept étranger aux Congolais eux-mêmes, parce que on ne comprend pas peut-être que c'est là que les Congolais même s'approprient la lutte contre la corruption, ni l'amélioration de la gouvernance. Ça risque d'être un concept qui est gardé par vous, qui vulgarisez selon le souhait du chef de l'État, et les autres, et la population et les autres personnes se sentent vraiment éloignées de tout cela. En un mot, comment il faudrait rapprocher cela à la vie quotidienne de tous les Congolais pour qu'ils comprennent comment s'impliquer dans la lutte contre la corruption. En un mot, professeur Mouenambali.
C'est parmi la résolution de cet après-midi, nous présentons qu'il peut y avoir une nouvelle synergie qui va naître, puisque participent à ces séminaires ateliers les membres de la société civile, les membres des congrégations religieuses, les membres de certaines corporations syndicales, les membres des affaires, les institutions publiques et des États. Nous croyons qu'il y aura un consensus qui sera dégagé, des nouvelles stratégies pour que la population soit plus concernée par la question à travers une approche de proximité que nous attendons mettre sur pied cet après-midi
voilà.
Au moment de résolution finale.
Nous, on reviendra à ça vers la dernière partie de l'émission, le temps d'écouter les auditeurs, hein, Patrick et Talumbashi, Célestin Akindou, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance, comment ils aussi ils perçoivent dans leur milieu les efforts qui ont été fournis, quels sont les témoignages qu'ils ont, et qu'est-ce qu'ils proposent aussi pour arriver vraiment efficacement à lutter contre tout cela. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel.
Parole aux auditeurs.
Patrick, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, bonjour.
Bonjour M. Pierrot et bonjour à tous. C'est Patrick Mbouli depuis Lubumbashi.
Mais vous avez suivi notre invité. Avez-vous cette impression que beaucoup d'efforts ont été fournis pour arriver vraiment à matérialiser cet esprit de lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance?
Ok, merci beaucoup M. Pierrot. Moi, je voudrais parler dans le sens où lorsque je je suis les interventions de politiciens, des analystes politiques, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression que tout le monde acclame, tout le monde parle de la corruption, la corruption, la corruption. Et chaque fois, je me pose la question, qui est à la base de ces fléaux qui gangrènent aujourd'hui la société congolaise? Oui, bien sûr, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis par les chefs de l'État, mais je sens comme s'il est seul. Il parle, mais ceux qui sont autour de lui ne prennent pas des décisions qui changent les choses. Donc, pour essayer de d'éradiquer ces fléaux qui gagnent aujourd'hui notre société, il y a plusieurs solutions. Entre autres, c'est une question d'hommes. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête des institutions, de ministères et consorts, ils doivent assumer leurs responsabilités à 100%. Ceux qui viennent aujourd'hui au pouvoir, la plupart cherchent d'abord à s'enrichir, à s'acheter des parcelles, à s'acheter des maisons, des véhicules, envoyer leurs enfants en Europe, etc. Mais ils oublient l'intérêt communautaire, ils oublient leurs missions qui sont là. Donc, alors, pour trouver des solutions efficaces, il faut aussi que le chef de l'État puisse sanctionner tous ceux qui sont derrière ces actes mauvais qui détruisent aujourd'hui notre société. Lorsque on fait les audits, lorsqu'il y a quelqu'un qui est attrapé, lorsqu'il y a quelqu'un qui est en flagrance et qu'on sort, il doit être sanctionné. C'est ça le grand problème. Mmh. Lorsque quelqu'un a volé l'argent de l'État, il est révoqué, c'est tout, ça s'arrête là. Non, ça ne suffit pas. Ça ne corrige pas les autres. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions, comme on avait vu l'autre fois avec Mouzé. Lorsqu'un ministre détourne l'argent, il est arrêté automatiquement. Lorsqu'on voit que non, il y a quelqu'un, un mandataire public qui a fait quelque chose, il doit être sanctionné. C'est ça le grand problème aujourd'hui dans notre pays, mes citoyens.
Voilà, merci Patrick. Vous dites qu'il y a des efforts, mais il faudrait qu'il y ait des mesures concrètes qui sont prises hein, autour auprès de ceux-là qui entourent le chef de l'État, qui doivent accompagner sa vision. Il y a un autre invité qui l'a dit, mais cela doit être accompagné par des décisions parmi lesquelles la sanction, l'audit, le contrôle est sanctionné. Il faut sanctionner ceux qui sont accusés ou ceux qui sont attrapés. S'il n'y a pas des sanctions, ça sera difficile qu'on puisse vraiment éradiquer la corruption. Merci Patrick Célestin. Vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour Célestin.
Bonjour Monsieur Perro et la Mégie. C'est Monial Yadiou Célestin de Kindu, ici dans la province de Maniema.
Vous avez suivi notre ami Patrick qui pense que le problème c'est la sanction. Si longtemps qu'il y a l'absence des sanctions, ça sera difficile vraiment de lutter contre la corruption.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec mon prédécesseur de Lubumbashi. Parce que je vais vous donner un cas que j'ai ici à Kindu et par rapport à ce que l'invité vient de nous dire dans les studios, dans les studios ou pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce cas. Il dit nous ramène ces demandes à des traités internationaux, à l'engagement du chef de l'État. Or, c'est un problème qui concerne tous les Congolais et tous les Congolais doivent s'impliquer. Tout Congolais doit s'impliquer. Je vais vous donner le cas de l'impunité qui se fait ici chez nous à Kindu. Nous sommes dans la période où on a interdit l'abattage des animaux sauvages. Je suis aux alentours partout de Kindu. Je vois une maman qui s'amène avec une mallette. Là, c'est ça. Elle vend des savons secs. Or, les savons secs, c'est la viande boucanée qu'elle vient faire son marché avec les magistrats. Imaginez-vous. Si c'est les magistrats qui achètent la viande. À la période de tout, on a interdit de tuer les animaux sauvages. C'est pourquoi, pour moi, les solutions tournent autour des quatre piliers que j'ai épinglés. Premièrement, il y a d'abord l'impunité. L'impunité, si on ne punit pas au niveau que Moussa Laurent Désiré Kabila a commencé, là, on est en train de faire la théorie, mais non la pratique. Deuxièmement, c'est manque d'emploi. Comment pouvez-vous éradiquer la corruption là où on a plus de 80% des Congolais qui ne travaillent pas? Ils travaillent ici chez nous, si on donne une offre d'emploi, pour seulement, on cherche deux ou trois personnes, vous aurez 500 demandes d'emploi. Imaginez-vous ça, c'est quelle proportion? Combien de pourtant là-bas qui ont la chance de trouver un emploi? Troisième pilier, c'est salaire insuffisant. Comment pouvez-vous expliquer que moi, je suis enseignant ici, on me donne 70 000 francs. Et ce 70 000 francs n'existe pas pour Noël et ses beaux du mois. Et alors, je suis obligé de travailler chaque jour du matin à midi. Et je sors, je dois préparer, je dois faire toute autre chose pour un enseignant, pour qu'il soit appelé un enseignant. Et un enfant, je vois, dans la classe avec un enfant d'un anti. Je peux lui demander l'argent pour que ma famille aussi puisse vivre. Quatrième et dernier pilier, c'est détournement des biens publics. On est en train de voir jour et comment les gens sont en train de détourner les biens publics aussi et aussi. Et toutes les autorités et les autorités croisent les bras, parfois applaudissent ça. Les journalistes. Nous traitons les problèmes et les solutions ailleurs, or nous avons les problèmes et les solutions.
Mais la solution, voilà. Si on vous a suivi, Célestin, vous avez dit, notre invité nous a présenté la liste des traités, des conventions, des lois, des textes, des organes créés pour lutter contre la corruption. Vous avez dit, c'est pas une question de tous ces traités, c'est pas une question aussi de seul le chef de l'État, mais ça doit être pris dans la globalité de toute la population congolaise. Alors, pour y arriver, vous proposez quatre piliers. D'abord, la lutte contre l'impunité. Vous proposez la création de emplois. Il faudrait que les gens accèdent à l'emploi. Il faut, quand les gens travaillent, qu'il y ait aussi des conditions salariales acceptables. Vous avez donné l'exemple d'un enseignant. Si j'ai 70 000 francs et qui est à l'école, un enfant d'un député à qui je donne cours, c'est plus facile que j'ai recours à cet enfant pour lui demander de l'argent. Vous avez évoqué aussi le détournement des biens publics. On doit lutter contre ça. Voilà les actes sur lesquels on doit travailler pour éradiquer la corruption. Merci. Vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Nous retournons ici à Kinshasa, dans la capitale. Monsieur Richard, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité, monsieur le professeur. Et félicitations à tout le monde qui a parlé.
Alors, pour que la lutte contre la corruption ne devienne comme un concept qui tourne autour de seulement les professeurs, les ateliers qui se tiennent, la volonté, comme on l'a dit, du président de la République, les traités qu'on a signés, et que la population se voit étrangère à tout ça, qu'est-ce qui doit être fait pour que la lutte contre la corruption soit ancrée dans le moral de toute la population, comme le disait notre ami Franck de Vienne?
Oui, je suis content de cette question, et je suis aussi heureux de la remarque faite au professeur qui voudrait montrer que c'est une histoire de 1+4 quand M. Joseph Kabila était à la tête de 1+4. C'est une histoire qui a l'âge de la terre. Il faut d'abord donner à cette chose qu'on appelle la corruption son contenu. Et puis, particulariser le contenu dans le contexte congolais. C'est quoi la corruption? Et ensuite, chercher pourquoi il y a la corruption à la congolaise. Alors, maintenant je dis aussi au professeur qui a étalé les éloges de son organisation, est-ce qu'il ne sait pas que le dossier des Malaki et assassinat est un dossier de corrupteur? Est-ce qu'il ne sait pas aussi que 1+4 a dédouané ceux qui sont impliqués dans ce dossier? Le moraliste libère le fautif. Comment on peut l'appeler? Où est parti le dossier des Malaki assassinat? Je me souviens des empoignades au niveau des médias entre M. Bonfa et Ngoulou. Il y a un qui a dit à l'autre, tu ne peux pas faire la politique, tu es né dans les biens Malaki. C'était sous les antennes de Radio Capi. Comment on peut définir la corruption dans le contexte congolais? C'est ça le problème. Ce n'est pas une notion de 1+4. Quand je considère la situation cartagaise, le roi des Belges était ici, lessivé, mouillé par le discours de Lumumba, il a pris en catimini la route du Katanga, il a fait 2 jours à Lubumbashi, à l'époque Elisabethville. Qu'est-ce qu'il est arrivé là-bas? Et puis le 11 juillet, il y a une sécession, ce n'est pas la corruption.
Il faut qu'on analyse les choses, qu'on analyse les faits.
Mm-hmm.
Une autre image. Un monsieur a été toujours bailleur d'une grande ambassade européenne ici. À sa mort, cette grande ambassade d'un pays qu'on connaît de Benelux inaugure ou pose la première pierre de son ambassade. Pourquoi ce monsieur était le bailleur de l'ambassade de Turquie-là? Ce n'est pas la corruption. Il faut qu'on analyse les choses.
Oui,
il faut qu'on aille mollo mollo pour définir la corruption au Congo, c'est quoi.
Alors, ça veut dire que vous considérez que le, si on ne s'assoit pas pour dégager vraiment la corruption dans notre compréhension et ses causes, il sera difficile de proposer des schémas, des solutions qui puissent être efficaces. C'est ça votre souci?
Mais oui, construit. On risque de faire ce qu'on appelle de battre le duel. On risque de faire ce qu'on appelle la parade.
Voilà, là aussi la ligne téléphonique se détériore entre les studios et Dr. Richard Laoui se trouve ici à Kinshasa. On revient à vos professeurs Saint-Augustin Mouindambali. Vous avez suivi, nos auditeurs sont très inquiets et ils disent, c'est vrai, vous avez présenté ce qui a été fait, les documents, les traités qui sont signés, la volonté, c'est autre chose. Il y a Dr. Richard qui pense que, est-ce qu'on a pu faire des analyses profondes pour savoir d'abord c'est quoi même ce que nous comprenons par la corruption, quelles sont les causes, hein, et comme ça on pourra avoir aussi des actions plus efficaces plutôt que on risque encore de revenir, de parler de revenir. Est-ce que dans cet atelier vous avez quand même pu aller en profondeur pour extirper l'origine et des mots qui se posent dans notre société, et comme ça les solutions seront aussi plus efficaces en fonction de ses origines, professeur?
Oui, merci le présentateur de l'émission. Je crois que cet atelier avait pour mission d'évaluer les efforts de la RDC en matière de lutte contre la corruption et en gouvernance. Le déconcept des opératoires qui devait précéder l'analyse des efforts, c'est de chercher d'abord à avoir une perception commune de la corruption.
Mmh.
Bon, il ne s'agit pas d'aller parfois chez maître pour définir la corruption. Il ne faudra pas non plus se référer à des mismes universels pour définir ces concepts. Monsieur, la corruption, en termes très simples, c'est quoi? Le refus de l'ordre établi et la possibilité de pouvoir le contourner par des moyens malhonnête pour en tirer profit.
Mmh.
Autrement dit, on dit la corruption, c'est quoi? C'est l'exercice de l'abus du pouvoir à des fins personnelles.
Mmh.
Puisque tout le monde n'est pas doté de pouvoir, mais ça peut être également le fait de profiter d'une position dominante qu'on a pour pouvoir tirer les profits subsidiaire à cette position. Je suis un enseignant d'université, j'interroge mes étudiants sous mes ordres, et je vais profiter de ma position de donneur de leçons pour pouvoir rançonner l'étudiant, pour avoir des relations interdites avec une étudiante, parce que je sais qu'il ne peut pas me refuser. Donc, nous ne sommes plus à l'étape où nous devons définir la corruption avec des termes compliqué. C'est l'achat de conscience. Pousser quelqu'un à poser un acte qui n'est pas réglementaire pour qu'il puisse en tirer le bénéfice. Là, je termine. Mais la question essentielle, et là, je serai d'accord avec certains de nos auditeurs, il faut interroger les causes. Et il y a les causes lointaines. Indépendamment de la cause liée au salaire, juste, il faut enlever cet alibi de salaire pour pouvoir parler convenablement en matière de salaire. Il faut payer un salaire décent aux fonctionnaires, aux agents qui travaillent pour les empêcher de prendre la corruption, si ça n'est une cause, une des causes. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui touchent mirobolant, qui touchent gros, et qui sont libres, qui sont des partisans patentés de la corruption, de l'enrichissement illicite. Et qu'est-ce qui ferait que moi, avec le salaire que je touche, qui ne me suffit pas, je ne parviens pas à prendre la corruption, alors qu'un collègue qui a terminé avec moi dans la même université et qui exerce les mêmes fonctions que moi, c'est libre aux pratiques de corruption. La corruption, c'est également être Adam, la sans une éducation du bas, de base. Voilà pourquoi que nous disons parmi les solutions, la prise en charge doit être effectuée à partir de l'approche que nous avons créée, qu'on appelait la théorie des 16. 16 attendu comme F, attendu comme prise en charge au niveau de la famille, il doit y avoir une éducation. Certains justes et coutumes sont appris à l'enfant à partir de la famille. Si papa a pu supporter que la maman puisse dérober dans la casserole d'une voisine les morceaux de viande et sans en faire un problème, il est vrai que les enfants suivront les mêmes modèles. Tout commence par la famille. Donnez le premier leçon. Dès que vous avez le premier leçon, on vous confie à l'école. L'école codifie les valeurs qu'on attend être les valeurs collectives, qu'on attend être les valeurs intellectualistes. Vous devez vous conformer également à ces valeurs, outre les us et coutumes que vous avez appris dans votre famille. Dès que vous quittez l'école, vous entrez dans la société. Tout le monde n'a pas été à l'école. Vous allez vous confronter avec des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui ont un autre type d'éducation. Vous allez découvrir quelqu'un qui s'enrichit suite au vol, au détournement, et ça devient un modèle, comme ce n'est pas parfois en RDC. On les a surnommés les Mouama, les Trésors, Ninja, appelle ça Talaté. Vous comprenez? Et si vous vous laissez influencer par ce type de discours, le valet que vous avez reçu dans la famille, le valet que vous avez reçu à l'école, risque de voler en éclat. Et si par hasard, avec cette confrontation à la société, on vous appelle à des fonctions au sommet de l'État ou dans les postes de responsabilité, puisque vous avez appris à construire votre bonheur autour du mal, autour de la souffrance des autres, vous continuerez à garder la même.
Merci, professeur. Nous allons écouter Tite Kitagoma, Michel et Tamatadi, dans la province de Bakongo. Vous avez insisté sur la famille, l'école, la société. Il faudrait, comme l'a dit Franck Devienne, repenser la société à tous les niveaux. C'est là même, la lutte ne doit pas seulement s'exercer au sommet, mais il faut voir la lutte contre la corruption à partir de la base. Mais ça aussi, c'est important. On pourra aussi voir les stratégies pour y arriver. 081-890-63-15, c'est le numéro d'appel. Comment arriver à lutter efficacement contre la corruption en RDC? Et si vous êtes avec nous, Michel, on va vous accorder la parole.
Parole aux auditeurs.
Tite, vous êtes à Goma, dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Moi, je trouve que la bonne gouvernance serait toujours des remèdes pour la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que les trois pouvoirs aujourd'hui que nous reconnaissons en République démocratique du Congo, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, est à la tête de tout ce qui se passe dans notre République comme corruption. Pour le pouvoir judiciaire, vous voyez, lorsqu'il y a quelqu'un qui a un problème d'État ou un problème, une infraction, quelle que soit l'infraction dans laquelle il se retrouve, s'il a des moyens, il a toujours raison. Pour le pouvoir exécutif, ils ont la même mise sur le pouvoir judiciaire, même si ils sont en infraction, même si ils n'occupent pas leur fonction, ils ne font rien comme ministre, comme président de la République, vice-ministre, gouverneur, même si la population, même si l'Assemblée nationale réagissait en tant que pouvoir législatif ou bien en tant que quelqu'un qui doit interpeller, en tant qu'organe qui doit interpeller le ministre. Le ministre de tutelle doit d'abord va mettre des stratégies pour remettre à certains députés des montants, $100, $10, Alors, la corruption toujours évolue par là. Vous voyez, nous sommes presque dans la période préparatoire des élections.
Mm-hmm.
Il y a la constitution qui est en train d'être manipulée. À l'Assemblée nationale, il y a déjà des manœuvres qui se passent là-dedans. Et les gens vont recevoir des enveloppes pour que, normalement, cette constitution soit changée au détriment de la population. Cela veut dire que si, normalement, nous voulons changer, si nous voulons vivre un pays qui n'a pas de corruption, nous devons d'abord changer, nous devons d'abord avoir une bonne gouvernance. Je pense, même au niveau des élections, il y a des corruptions qui se passent là-dedans. Puisque normalement, le niveau de la population est trop bas. Donc, nous n'avons pas de revenus si aujourd'hui je suis sélectionné parmi les gens qui vont être chefs de bureau, de ne jamais toucher soit $500 le mois. On me propose $5,000 pour tout donner soit à quelqu'un, comme moi. Peut-être que je suis obligé de le faire, et si je ne le fais pas, je serai sûr. Si je ne le fais pas, peut-être que
Et d'ailleurs, c'est un titre, ce que vous avez dit. Oui, mais vous avez dit, ce que vous avez dit, c'est important en titre, là, parce que vous avez évoqué la bonne gouvernance. Vous avez dit que le seul moyen d'y arriver, c'est d'abord l'instauration de la bonne gouvernance. C'est elle, dès qu'elle est leitmotiv de la politique, elle pourra facilement lutter contre la corruption. Vous avez évoqué le pouvoir judiciaire, l'influence de l'instrumentalisation de la justice. Vous avez évoqué le pouvoir exécutif, son influence sur le pouvoir judiciaire. Vous avez donné l'exemple, l'interpellation, par exemple, d'un ministre, des mandataires au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, qui celui-ci en amont, il traite avec les élus pour leur donner de moyens pour le maintenir. Il y a les élections, les cagnottes, les enveloppes qui circulent pour modifier une loi ou une autre. Voilà, toutes ces manipulations, vous estimez que ça ne peut pas nous aider aujourd'hui à combattre la corruption. Il y a les manipulations au niveau des élections, la falsification des résultats en faisant circuler de l'argent. Mais vous estimez que si on est tous animés de l'esprit de la bonne gouvernance, on peut facilement, dans chaque sphère de la nation, combattre la corruption. Merci beaucoup, Kit Michel. Vous êtes à Matadi, dans la province de Bakongo. Bonjour.
Bonjour, messieurs.
Michel, vous avez suivi les uns et les autres. On estime, comme le Dr Charles l'a dit, que cette question doit être une question de toute la population, pas seulement de personnes qui peuvent discuter autour de ça, et fait que ça soit ancré dans la conception de toute la population, la lutte contre la corruption. Et comment y arriver alors?
Oui, moi je crois, c'est bien ce qui a été dit, mais ça doit être d'abord la volonté primordiale du chef de l'État. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si nous prenons l'exemple, au Sénégal, aujourd'hui il y a un poste, il y a les fils de l'ancien président, qui est devant le conseil des tribunaux pour se justifier. Et moi, je crois que ça devrait être d'abord les soucis. Si le président a des soucis, moi, je donne un poste aux institutions. Vous trouvez ça normal que dans ton port, dans nos aéroports, un individu va établir son bureau, il perçoit des taxes fiscales même. Et cet argent n'est pas mis dans la caisse, mais dans la poche de l'industrie. Ça, c'est anormal. Vous savez, nous avons eu des rapports de Toundoula. De Toundoula a tout dénoncé. Et je crois que ces rapports ne devraient pas être minimisés. Comme il y a un député, il y a un hôtel qui avait dit précédemment, que si nous n'arrivons pas à arrêter l'avant, c'est parce que la justice elle-même est dans la corruption. Puis dans la corruption. Vous savez, il y a un truc qui me disait, si vous prenez seulement notre pont, si vous prenez les puissances que nous avons, mes frères, vous savez combien entre nos PPH à chaque jour avec tous les véhicules qui passent. Mais ça ne peut pas vous interpeller où ça cet argent. Et pourquoi cet argent ne fait rien dans nos provinces. Ce qui veut dire, quelque part, cet argent part dans des poches qui sont trouées. C'est ça les deux autres. Si nous étions un pays normal, vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un monsieur qui a été. Il y avait une contre-mise. lorsque nous voyons maintenant c'est tuer Matata Mboyi aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a une vérité. Mais voilà comment cette situation s'est mise à pied à l'heure à l'époque. Et c'est terminé. Donc c'était normal. C'est quelqu'un qui sert la nation pour des petits degrés de compte. C'était normal.
Mm-hmm.
Je crois que c'est la faute du pouvoir. C'est lui qui doit tout organiser.
Oui, Michel, vous avez raison. Vous avez raison en évoquant tout à l'heure ce que le professeur a dit. Vous dites ce qui est, c'est la volonté du chef de l'État, à partir de son impulsion, de ce qu'il voudrait que les autres doivent emboîter les pas pour lutter contre la corruption. Mais vous avez donné aussi des exemples, que ce soit les deniers publics, que ce soit le fonctionnement de la justice. Mais vous évoquez sur les différents rapports, plusieurs fois, on voit des rapports, le rapport d'Otondoula, la commission Bakandeja. Vous avez évoqué tout à l'heure la polémique autour de plénières qui devaient en principe faire les bilans de la gestion du budget, et on sait comment cela a fonctionné au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, voilà autant de préoccupations, les péages au niveau de Matabi, par exemple, tout ça doit être expliqué, mais ça doit se résumer dans la volonté du chef de l'État qui donne l'impulsion pour que les autres puissent emboîter les pas et arriver vraiment à lutter efficacement contre la corruption. Merci beaucoup, Michel de Matabi. Didier, vous êtes dans la cité de Katanda, c'est dans la province du Kasaï oriental. Bonjour Didier.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les uns les autres. Notre invité a dit le problème de la lutte contre la corruption ne doit pas être réduit seulement au salaire, parce qu'il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent, quand bien même ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont toujours dans le détournement, ils sont dans la concussion, ils sont dans les détournements des deniers publics. Alors, si c'est pas une question seulement des salaires, alors c'est, comme l'a dit Franck, c'est un problème moral. Comment efficacement on doit éradiquer cela?
Oui, monsieur le journaliste, moi je regrette si l'invité doit commencer par rejeter le problème des salaires. Il ne pouvait pas commencer à trouver des résolutions au moment où le séminaire est en cours et que parmi les résolutions, lui commence à rejeter le problème des salaires. Monsieur le journaliste, je vais vous donner un exemple. Du temps de Musée, moi j'ai connu un problème, j'ai failli faire la prison. Je vous donne cet exemple avec amertume et ça me donne toujours le courage de ne pas corrompre jusqu'à ce niveau. Je venais de quelque part, 60 km de Mbujimayi. Nous avons trouvé une barrière érigée par les militaires. Qu'est-ce qu'il y a eu? On cherchait un bandit qui avait pris bord ensemble avec nous dans les bus, dans les minibus là. Moi j'étais pressé, je devais aller au service à 13h. C'était déjà vers 11h30. Mm-hmm. Je me suis donné le courage, je suis allé voir les responsables de la barrière, les trains qui étaient là. Je lui ai posé le problème, monsieur, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit non, nous sommes en train de faire nos recherches. J'ai dit, bon, permettez-nous, nous voulons aller, puisque nous voulons récupérer les chauffeurs, vite, vite qu'on parte. Prenez quelque chose pour votre cycle, nous nous passons. Monsieur le journaliste, on m'a chicoté jusqu'à un niveau, je ne peux pas vous dire. On m'a dit, allez, restez là-bas. C'est caillou, le monsieur là a parlé, le temps là a parlé en Swahili. Muzee eko na nilipa makuta ya mingi sana, huku na kuya na huku na huku nikata midomo. Ale kule utafanya buloko. Imaginez-vous. Tu es venu me corrompre avec quelque chose. Pour Muzee est en train de me payer avec beaucoup d'argent qui me suffit, qui réunit d'un bout du mois et à l'autre. J'étais étonné et on m'a libéré 3 heures après. Et les minibus étaient partis, on m'a laissé là-bas. Il a fallu beaucoup d'interventions pour qu'on puisse me libérer. Je vous donne encore un autre exemple. Il y a une fille que je connais très bien qui a demandé une prière à un pasteur. Pourquoi il a demandé ça, la fille-là, la pauvre dame, qui ses parents sont des cultivateurs en train de payer l'université pour elle. Elle s'est retrouvée devant un problème. Un professeur qui venait de Lubumbashi, qui vient donner cours. Après, à la fin, c'est la fille qui se retrouve devant le professeur qui lui dit, ou soit c'est toi, ou soit c'est l'argent. La fille qui dit, mais moi, j'ai toutes mes comptes, toutes les données sont là, j'ai participé à ton cours, j'ai participé, le TPG fait, j'ai quand même des points. Il dit, non, ma chère fille, tu vois, avec ta beauté là, tu ne peux pas passer sans faire témoigner. Ou soit c'est l'argent, ou soit c'est toi. Mm-hmm. Imaginez-vous, si je dois commencer à rejeter l'argent, un papa qui travaille, un fonctionnaire de l'État, on lui paye 33 000 francs, qui est en train d'établir les permis de conduire. Le papa là, vous arrivez avec tout ce que vous avez, tout ce qu'on demande, les photos passeport, tout. Il vous dit non, bon, les documents ne sont pas là, il faut aller chercher au chef de division, tout ça, donner quelque chose, je vais le voir. Pourquoi? Parce qu'il a 33 000 francs, qui ne le suffit pas. Il est obligé de vous établir un document, vous verrez quelque chose. Après, c'est pour ça que vous demandez, monsieur le journaliste. Votre invité ne peut pas craindre ça. Il doit beaucoup plus en effet sur ça. La bonne gouvernance, le ministre, un ministre qui détourne l'argent. Après, on dit, c'est maintenant que nous venons d'apprendre dans notre pays que le détournement n'est pas égal au vol. Hein? Quelqu'un qui détourne une chef de division, peu après vous allez suivre qu'il est devenu ambassadeur quelque part.
Mm-hmm.
C'est-à-dire au Congo, pour bien passer, il faut voler.
Mm-hmm.
Et la corruption, voilà. Il faut corrompre.
Mm-hmm.
Hein? Vous voilà. Volez la corruption et
vous passez. Le souci que vous avez, Didier, vous l'avez dit, c'est d'abord la lutte contre l'impunité, parce que le fait que vous avez tenté de corrompre ces militaires, il vous a fait chicoter, vous dites que ça vous a donné la leçon, jusqu'à aujourd'hui vous ne pouvez pas revenir, c'est-à-dire qu'il faut d'abord lutter contre l'impunité, mais d'un côté, il faut améliorer les conditions de vie de ceux qui travaillent. Quelqu'un qui s'occupe des permis de conduire, 30 000 francs, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut créer d'autres circuits pour faire entrer l'argent, et notre invité doit insister aussi sur ça. Merci beaucoup, Didier, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Giscard, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. En 40 secondes, Giscard, vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qui doit être fait efficacement avant qu'on accorde la dernière parole à notre invité?
Oui, je voulais dire que la corruption fait défaut dans l'entreprise. Pour moi, je suis contre la corruption. Maintenant, pour laisser la corruption, ça demande maintenant, nous, les Congolais, de lutter contre ça et de laisser ce mauvais système de correction. Et comme l'exemple, un élève qui n'étudie pas. Et à la fin de l'année, il va pour corrompre son professeur pour passer la salle. Maintenant, quel sera leur sort? Il sera moins joué également à notre pays, la RDC. Si nous continuons avec un mauvais système de corrompre les gens, nous serons toujours en retard dans notre milieu comme la RDC.
Merci beaucoup, Giscard. C'est un problème de conscientisation. Il faut conscientiser la population. On revient à vous, professeur Saint-Augustin Mouindambali. Je sais que cet après-midi, vous allez clôturer ces séminaires ateliers. Vous avez suivi les uns et les autres. Mais du moins, on reste tous d'accord qu'à côté de l'amélioration des conditions des vies de travail, il faut les conditions de travail, il faut la moralisation de la société. Du moins, on est d'accord. Mais il y a aussi l'exemplarité, c'est par rapport à ceux qui sont élevés en dignité. C'est au niveau où ça se fait, par exemple, à l'Assemblée nationale, quand il y a des rapports, quand il y a des commissions, quand il y a de rapports qui se font, la manière dont les plénières se déroulent, la manière dont les procès se tiennent dans notre pays, tout cela peut aider la population à comprendre qu'il y a des efforts qui sont faits, on peut emboîter les pas, tout comme ça peut décourager complètement la population pour s'impliquer dans cette idée de lutte contre la corruption, professeur. Professeur Mouindambali, vous êtes avec nous? Je crois qu'on a eu des petits soucis des lignes avec notre invité. On pourra voir comment les joindre tout à l'heure. Mais en attendant, nous avons aussi d'autres messages déposés par les auditeurs sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mabogo, Cardinal Nicolas de Malawi dit ceci: le gouvernement doit combattre d'abord la corruption dans les différentes fonctions au niveau des instances de la République, à partir de ministères, des divisions partout. On doit donner l'exemple, innocent Armand Kondoli de Kinshasa, pour lutter efficacement contre la corruption. Il serait souhaitable que la justice de notre pays agisse comme un organe de répression pour rechercher et sanctionner sévèrement les corrupteurs et les corrompus. Sébastien Moulumba de Kananga: lutter contre la corruption est un problème de tous. On pense que la corruption fait partie de nos mœurs. Or, chaque société, chaque secteur et chaque individu aurait tout à gagner en disant non à cette antivaleur qui ronge notre pays. Alors, pour lutter efficacement, il faut d'abord ratifier, incorporer la Convention des Nations Unies contre la corruption, savoir que la Convention exige à l'État et de ses fonctionnaires informer le public de l'obligation qui incombe à l'État d'être exempt de la corruption. Vous avez suivi notre invité à expliquer tout à l'heure que toutes ces conventions ont été ratifiées par la RDC. Jean-Luc Mukutu de Lubumbashi: lutter contre la corruption doit être une affaire de nous tous. La solution efficace, c'est de sanctionner sévèrement les auteurs de la corruption, quel que soit leur rang social, afin de donner l'exemple. Sinon, elle va continuer à ronger la société congolaise. Nous avons aussi Fiston Rajabou de Bukavu qui dit ceci: nous pensons que pour lutter efficacement contre ces fléaux qui gangrènent la vie sociale, les gouvernants devraient tous d'abord commencer par prendre les taureaux par les cornes en servant d'exemple. Car ce qui est malheureux dans notre pays est que ceux-là qui devaient punir ces fléaux s'érigent en eux-mêmes en violeurs de la loi. Nous proposerons en plus que les gouvernants commencent par revoir leur rémunération et pour créer l'équilibre entre les salaires qui sont touchés par ceux qui sont dans à les institutions publiques, ceux qui dirigent, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui sont au Sénat, ainsi que les salaires moyens de la population. Cela peut créer l'équilibre et éviter les inégalités au niveau de la société. Voilà autant de pistes, des solutions de nos auditeurs. On a des petits soucis de ligne avec notre invité pour voir si on peut passer à la conclusion avec notre invité. Je crois, professeur Saint-Augustin Mouedambali, vous êtes avec nous. Tout à l'heure, là, on a eu des petits soucis de ligne avec vous. Vous avez suivi les uns et les autres. On est tous d'accord que c'est une préoccupation de tous et de la justice aussi, particulièrement. Mais dommage qu'on a perdu encore les professeurs. Là, c'est un petit souci des lignes téléphoniques que nous avons tout à l'heure. Alors, la première responsabilité, comme le disait un de nos auditeurs, il faut la sensibilisation de toute la population, permettre à chaque personne de comprendre son rôle dans la lutte contre la corruption.
Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, c'est par là que nous mettons au point final à cette émission consacrée à l'amélioration de la gouvernance et la lutte contre la corruption. Nous avions en direct le professeur Saint-Augustin Mouedambali, directeur général de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Et nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Paul Bayanama était à la mise en onde, Julie César à la réalisation, Piro et la Mégie à la présentation, Nicole Ngaka à la supervision. Vous allez retrouver cette émission sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 20h03, heure de Kinshasa. La journée internationale de la paix, ça célèbre le 21 septembre de chaque année. On se retrouve demain pour dégager les pistes de solutions, comment consolider le processus de paix en RDC. Merci, au revoir à tous.